c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio. Bonjour à vous. Alors j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous. Devoir à rendre, rapport à boucler, facture à payer, autant de choses à faire que l'on risque de remettre au lendemain. Alors peut-être pour aller participer à la première journée mondiale de la procrastination. Et si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Peut-être. Eh oui, la procrastination consiste simplement à remettre au lendemain ce qui peut être fait le jour même. Un comportement qui peut être perçu comme séduisant à bien des égards, mais qui peut devenir pathologique et difficilement supportable pour l'entourage. Et pour François Weyerganz, la procrastination est une défense immunitaire face à une société extrêmement rude, un moyen de se défendre des assauts du monde contemporain. Alors pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on peut faire par un autre, ce qu'on peut faire aussi par un autre le lendemain? En tout cas, comme l'écrivait Pierre de Ronsard, vivez si m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Et je vous souhaite une très très bonne journée, même si c'est la journée mondiale de la procrastination.
Écrire ma lettre, je m'y mets bientôt, dès ce soir peut-être. Une lettre d'amour, c'est très important, c'est toujours du cœur dont la vie dépend. J'ai encore le temps de trouver les mots pour en dire assez sans en dire trop, car avant que nos sentiments ne changent, j'ai encore le temps pour l'appeler mon ange. Comment ces aveux seront-ils reçus? Je vais y penser et dormir dessus. J'ai encore le temps avant de les mettre dans le grand néant de la boîte aux lettres. J'attendrai donc demain, qu'aujourd'hui soit hier. C'est le meilleur moyen d'exaucer les prières, de jouer les devins et de passer l'hiver. Cette désinvolture, c'est ma consolation. Mais lendemain qui dure mes voeux sans condition, j'avoue que me rassure la procrastination. J'avoue que me rassure la procrastination. J'ai encore le temps pour faire ma chanson, je m'y mets demain. De toute façon, le temps qu'il faudra pour qu'elle vous parvienne, son propos sera l'histoire ancienne. Parler aujourd'hui demande prudence, faut déprogrammer les obsolescences, futur antérieur, passé dépassé, j'ai encore le temps de recommencer. En dormant dessus, je vais y songer, j'ai encore le temps pour changer d'idée, et que cette chanson prenne sépulture dans le grand néant de mon disque dur. J'attendrai donc demain, qu'aujourd'hui soit hier. C'est le meilleur moyen exaucer les prières, de jouer les devins et de passer l'hiver. Cette désinvolture, c'est ma consolation, mes lendemains qui durent, mes voeux sans condition. J'avoue que me rassure la procrastination. J'avoue que me rassure la procrastination. Testament. Je m'y mets bientôt, tôt ou tard sûrement, comme je suis du genre à faire mes devoirs pour lundi matin, dès dimanche soir. J'ai encore le temps pour me mettre en route, le temps qui m'usarde et le temps qui doute. Demain je ferai les trucs emmerdants, j'ai encore le temps de perdre mon temps. Comment aux enfers serais-je reçu? Je vais y penser, dormir dessus. J'ai encore le temps avant de chanter dans le grand néant de l'éternité. J'attendrai donc demain, aujourd'hui soit hier. C'est le meilleur moyen d'exaucer les prières, de jouer les devins et de passer l'hiver. Cette désinvolture, c'est ma consolation, mes lendemains qui durent, mes voeux sans condition. J'avoue que me rassure la procrastination. J'avoue que me rassure Pour finir la chanson, j'ai eu une idée formidable, mais on verra demain. Ou mardi.
Juliette sur Radio Plus. Alors aujourd'hui, et pas demain, aujourd'hui dans Sale Temps sur la planète, avec Jean-Louis Ouatté, président de l'Étrême Nature, nous reviendrons sur cette semaine pour les alternatives aux pesticides. Semaine qui génère chaque année de nombreuses actions. Alors les pesticides, parlons-en, il ne connaît pas, car Bertrand Trinel, acteur de notre rubrique Jardiner Autrement, n'en utilise aucun. Par contre, il a de bonnes astuces qui permettent aisément de s'en passer. Et puis c'est ensuite Jacqueline Panier, présidente des anciens du lycée Carnot de Bruay, qui nous racontera quelques souvenirs à la fois d'élèves et de professeurs. Et oui, ceux qui ont des lycéens chez eux savent que le bac est en train de prendre un autre aspect. Alors cela changera-t-il les habitudes? Savoir.
Le cercle des poètes disparu, passant la veille sur la troisième chaîne, elle avait écrit au correcteur sur sa trousse en dents, Carpe diem. Je me souviens de celle qui m'avait fait changer de place et apprendre l'humilité, qui à l'élection des délégués de classe aurait fait l'unanimité. Mais c'était la nouvelle qui débarque au beau milieu de l'année scolaire, fatale, parce que ses parents ont dû déménager, quitter leur Finistère natal. Elle s'appelait Marie, Martine, Isabelle ou Solange, avec un drôle d'accent, des expressions étranges. La fille qui venait de loin, on ne peut plus exotique, avait sur la troisième cinq semé la panique. C'est un amour de collège, un fantôme du passé, qui vous revient au petit-déj, une icône du lycée. Le temps fait des siennes et reprend ce qu'il sème. Carpe diem. Avec mon cœur d'artichaut et mes comédons sur le front, j'essayais tant bien que mal de la jouer sentimentale, les hormones en ébullition. Je me revois en sueur sous mon anorak, à l'aise comme un poisson dans l'air, lorsque je déclamais tel Cyrano vert de trac. Tu peux me prêter ton blanc s'il te plaît? Alors je m'étais lancé, je l'avais invité dans le meilleur quick de la région, à boire en grand seigneur un milkshake à la banane dans des grands verres en carton.
sur le disque du grand bleu, la série dans mes bras, scène ultime de la boum, Sophie Marceau et moi, la divine bretonne, Vénus t'es absolue, avait sur ma personne jeté son dévolu. C'est un amour de collège, un fantôme du passé, qui vous revient au petit-déj, une icône du lycée. Le temps fait des siennes et reprend ce qu'il s'aime. Carpe diem. Combien de fois je m'étais fait ce film, projetant au plafond ma vie en l'an 2000. Je me vois bien designer ou alors musicien. Elle serait avocate et puis aussi mannequin. Dans une vaste maison vitrée au bord de l'eau, avec un grand bouvier bernois un peu pâteau, les enfants à boucle d'or qui courent dans le jardin, un genre de famille Ingalls mais en moins américain. Bien.
Ouais.
Et en beaucoup plus bien. C'est un amour de collège, un fantôme du passé, qui vous revient au petit-déj, une icône du lycée. C'est un amour de collège, un fantôme du passé, qui vous revient au petit-déj, une icône du lycée. Le temps fait des siennes et reprend ceux qui s'aiment. Carpe diem.
Aldebert sur Radio Plus. Alors notre enquête dans l'air du temps, des herbes aromatiques, du céleri, des clémentines dans ces fruits et légumes non bio, réputé bon pour la santé, on retrouve des résidus de pesticides dépassant largement la limite maximale autorisée en France. Et ceci est assuré par un rapport. Alors d'après les chiffres de la répression des fraudes, 29% des herbes fraîches, 16% des céleris en branche et 9% des navets ont dépassé les limites autorisées. Une surprise pour les consommateurs, mais pas une surprise pour tout le monde.
Ça danse sur la planète. Le drôle de temps.
Et oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution ? Opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire.
Alors du 20 au 30 mars, la semaine pour les alternatives aux pesticides revient pour sa 14e édition. Alors cette année, les 50 partenaires de cette semaine se sont mis d'accord sur le thème de la biodiversité. L'extrême nature pour la biodiversité, c'est votre logo Jean-Louis et c'est votre combat. Bonjour Jean-Louis.
Bien sûr, bonjour Martine.
Alors, la biodiversité, bien évidemment, on en parle beaucoup dans cette rubrique, insectes, oiseaux, animaux, plantes, écosystèmes, etc., etc. Les sujets ne manquent pas. Pesticides et produits phytosanitaires, là aussi, nous sommes très présents sur le sujet, très présents aussi sur le changement climatique et le CO2. Mais Jean-Louis, bon nombre ne savent pas que tout est lié et que notre alimentation pèse lourd dans les émissions de gaz à effet de serre par habitant. Un tiers des émissions liées à la consommation des Français, pesticides, donc gaz à effet de serre, donc changement climatique, donc conséquences graves sur la biodiversité. Finalement, c'est le même combat, Jean-Louis.
Oui, tout à fait, parce que si on prend en compte toute la chaîne du champ à la fourchette des activités agricoles et alimentaires françaises, ça représente 36% des émissions de gaz à effet de serre françaises, loin devant celles liées au transport ou encore à l'habitat. Elles sont dues pour moitié à la production agricole, mais le reste est lié à la fabrication d'emballages, à la transformation, au transport, à la commercialisation alimentaire, au déplacement, etc., au traitement des déchets. Donc, notre alimentation pèse lourd dans les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi dans la perte de biodiversité. Hein, notre mode d'alimentation est directement en cause dans la baisse du nombre des espèces animales et de la biodiversité. Alors, vous me direz, quel est le rapport entre le contenu de notre assiette et la disparition, par exemple, des rhinocéros ? Eh bien, l'agriculture intensive, qui est responsable de la déforestation des forêts tropicales, des zones humides, et donc la disparition des zones naturelles où peuvent se reproduire et croître de multiples espèces, bah, cette agriculture qui vise à produire toujours plus de céréales et de soja pour nourrir des troupeaux de plus en plus importants, eh bien, elle est responsable de cette perte de biodiversité. Et puis, on prend par exemple les oiseaux avec la disparition de certaines espèces d'oiseaux, bah, qui n'ont plus de haies, et puis de couverts végétaux pour vivre et se reproduire, bah, certains insectes vont prospérer. Et là, c'est un cercle vicieux. Il faudra ensuite, pour les cultures, traiter avec des insecticides, car les agresseurs eh bien, vont se multiplier et en profiter. Donc voilà, on est dans un cercle vicieux. Et il est temps de revenir à un équilibre de tout ça.
Alors, c'est la 14e édition de cette semaine pour les alternatives aux pesticides. On a avancé un peu au fil des années avec, par exemple, les produits phytosanitaires interdits aux particuliers depuis le 1er janvier 2019. Mais, bon, par contre, avec, alors là, c'est ça c'est pour le grand public, hein, mais par contre, on a reculé avec le Roundup toujours présent sur les rayons des grandes surfaces, avec cette inscription sans glyphosate, mais tout simplement parce que celui-ci a été remplacé par l'acide pélargonique, substance herbicide très controversée, et pour cause, Jean-Louis.
Ah bah oui, de toute façon, les multinationales se sont préparés hein, à ces choses-là. Alors il faut savoir que cet acide pélargonique, c'est un acide gras d'origine végétale, alors qu'on appelle aussi également acide pélargique ou acide nonylique. C'est un produit obtenu par chimie dite verte, hein, donc d'extraction naturelle, à partir d'huile de colza principalement. Bon, il ressemble à un liquide huileux, incolore, il a une odeur âcre. Donc il est issu de du métabolisme des plantes. Donc il est innovant bien sûr en tant qu'herbicide, car il ne représenterait, paraît-il, aucun danger pour l'homme, les animaux et notre environnement. Mais ça demeure néanmoins un pesticide nécessitant une autorisation de mise sur le marché. Il n'est interdit d'utilisation dans l'agriculture biologique. Alors, il faut savoir que toutes les molécules dites naturelles ne sont pas garanties. Hein. Il faut se rappeler que le DDT, le glyphosate, tout comme ce sont des nouveaux pesticides dits naturels, c'était dans leur temps considéré comme des molécules miracles. Hein. Et on connaît maintenant leurs effets dévastateurs pour l'environnement et la santé humaine, qui n'ont pu être identifiés qu'après des décennies d'utilisation massive. Donc, faut savoir que l'acide pélargonique, c'est une molécule corrosive hein, qui provoque des brûlures de la peau, des liaisons oculaires graves. Donc, si elle est inhalée, elle peut provoquer des lésions de voies respiratoires. Donc, il faut être très, très vigilant sur ce produit. Il est réglementé, hein, c'est un produit phytosanitaire, réglementé au même titre que les autres pesticides. Et donc, on n'a pas beaucoup de recul pour appréhender la réelle dangerosité de cette molécule. Donc, il faut être très, très vigilant. Mmh.
Et puis, Jean-Louis aussi, on a reculé avec les députés qui ont adopté vendredi 15 mars un amendement du député LREM Roland Lescure avec le soutien du gouvernement autorisant la production en France de pesticides contenant des substances interdites dans l'Union européenne. Alors, pour citer Nicolas Hulot, c'est un retour en arrière inacceptable sur les pesticides. La France pourra continuer à produire et à vendre des pesticides que l'on juge dangereux à d'autres pays, et notamment aux pays en voie de développement. Et c'est encore une victoire du lobby des producteurs de pesticides sur la défense de l'environnement et de la santé humaine et animale.
Oui, bien sûr, c'est un recul en arrière, mais il faut savoir que les changements de pratique ne se font pas comme ça d'un coup de baguette magique. Hein. Il y a des avancées, des reculs, mais moi je dirais que les consommateurs ont une grande part de responsabilité. Hein. Et il faut quand même regarder un petit peu la part du budget des ménages dans l'alimentation qui ne cesse de diminuer, et c'est encore aujourd'hui malheureusement la course aux prix les plus bas. Et donc je pense que cela c'est une des raisons majeures. Regardez un petit peu dans ce qui se passe dans les magasins. Je vais prendre un exemple, les pommes. Entre une pomme bio pas très régulière et une qui est bien luisante, sans défaut, bien calibrée, traitée entre 20 et 30 fois, malheureusement le choix des consommateurs pour beaucoup ne va pas se porter sur la pomme bio. Donc je dirais que là aussi, les consommateurs ont leur part de responsabilité dans ces choix. Hein. Et donc c'est vrai qu'on a des reculs, on les regrette. Mais il faut aussi que c'est aussi dû aux consommateurs.
Mmh. Quoique, il y a une prise de conscience qui s'intensifie. Hein.
Oui, il y a une prise de conscience qui s'intensifie, heureusement, et je pense que c'est de là que vont venir les changements. D'ailleurs, quand on travaille avec les milieux agricoles dans des projets, on se rend compte que les choix des consommateurs ont une part importante justement dans l'avancée des changements. Donc c'est vrai, j'insiste beaucoup sur le rôle des consommateurs.
Et d'ailleurs, des manifestations se mettent en place, par exemple les 27 et 28 avril auront lieu à Arras, deux journées sur le thème Ensemble pour le vivant, végétal, animal, humain. Nombre de pétitions circulent, attention à celles qui demandent de l'argent quand même. Oui. Il y a des journées de mobilisation, il y a des actions aussi comme une collecte de pesticides en vue de leur destruction. Il y a des sensibilisations qui se font dans les écoles. Bref, partout en France et à l'étranger, des centaines d'événements sont organisés pour promouvoir justement les alternatives aux pesticides chimiques de synthèse. Et durant cette grande semaine, ce sont les initiatives citoyennes qui sont à l'honneur et proposent des solutions concrètes pour se passer des pesticides. Mais Jean-Louis, nous devons nous aussi jouer notre rôle et nous pouvons faire pour avoir le dernier mot et gagner ce combat, comme vous venez de le dire. Alors chacun d'entre nous peut apporter sa pierre à cet édifice qui est la lutte contre les produits phytosanitaires qui nous tuent à petit feu. Et d'ailleurs, vous, avec votre association L'Étrême Nature, vous aussi vous œuvrez dans ce sens, n'est-ce pas? Vous avez des actions prévues.
Oui, tout à fait. On a toute une gamme d'actions prévues. On en a une cette semaine, jeudi soir. Tout le monde est invité. Hein, c'est une soirée sur les jardins et la biodiversité. Hein, puisque les jardins sont à condition, bien entendu, d'avoir un comportement raisonnable, c'est-à-dire adopter un certain nombre de pratiques pour avoir un jardin au naturel. Eh bien, les jardins sont des refuges de biodiversité. On peut très bien se passer des pesticides, des produits phytosanitaires et avoir un jardin, que ce soit un jardin d'agrément, un jardin potager, qu'il soit petit ou grand. On peut très bien jardiner et sans pesticides et avoir de bons résultats, de belles fleurs, de beaux légumes. Et donc, jeudi soir, donc on a cette soirée à 19h30 au centre socioculturel de l'Étrême. Mais on a déjà eu ici, dans le cadre de la semaine aux pesticides, une action sur le greffage d'arbres fruitiers, puisque les arbres fruitiers, bien aussi, c'est des éléments qui sont importants pour la biodiversité, pour les insectes pollinisateurs. Et puis on continuera cette action samedi à Sailly-sur-la-Lys. Et puis samedi, on a aussi dans une jardinerie ici à la Gorgue, eh bien, on va faire une action sur justement les alternatives aux pesticides avec l'explication aux consommateurs qu'on peut très bien se passer des pesticides et on peut installer dans son jardin des refuges pour les insectes. Donc on est tout à fait engagé dans cette semaine des alternatives aux pesticides.
Tout à fait.
Et puis notre discours, c'est aussi toujours le même, hein, c'est que il faut faire des choix et il faut faire les bons choix pour justement revenir à un équilibre en matière de biodiversité.
Tout à fait. Donc ce sera le jeudi 28 mars à 19h30 au centre socioculturel de l'Étrême. Centre socioculturel se trouve place de la mairie. Voilà. Eh bien, donc on a compris, battons-nous pour notre santé, pour les générations futures, pour notre planète. Le combat ne doit pas se tarir. Et Jean-Louis, merci à vous.
Merci et bonne semaine.
Bonne semaine à vous.
J'ai 20 manifs en Russie, emploi fictif et puis boucherie. Le réchauffement, les bébés phoques, le blanchiment et la provoque. Tremblement de terre et vaches qui rient, course de civière et de tsunami. Licenciement et taux de chômage, cœur de ciment et prise d'otage. Bling bling Rolex et trahison, affaire de sexe et corruption. À part ça,
ceci, quelques ciels gris, ça nous suffit. État de droit et anarchisme, douleur au foie et scepticisme. Un Obama, un Ouistiti, un Sarkozy, un jacuzzi. Raison d'État, Carla Bruni, une OPA sur l'équité. Ligue des champions, Franck Ribéry, des illusions pour les petits. Les royalistes, les sans-abri, les socialistes, Martine Aubry, Berlusconi. Le pape qui voit, les spaghettis, le manque d'espoir. Les OGM, les pesticides, le mec que j'aime, la peur du vide.
Claire sur Radio Plus et pas de pesticides pour Bertrand Trinel qui chaque semaine nous donne des astuces pour jardiner au naturel.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre.
Bonjour Bertrand.
Bonjour Martine et bonjour auditeurs.
Alors c'est le printemps Bertrand et un proverbe dit « Qui ne sème pas au printemps ne récolte rien en automne ». On a compris que le travail au jardin nous attend et il est vrai que ça commence à bien se réveiller, à bien vivre, les fleurs, les oiseaux, les insectes aussi. Alors justement Bertrand, à propos d'insectes, les coccinelles sont de retour et oui, toutes mignonnes avec leurs couleurs rouges, piquetées de points noirs et rondement carrossées. Et on peut commencer à penser à leur descendance car elles ont beaucoup d'importance dans la lutte biologique, justement.
Oui, tout à fait. La coccinelle et les coccinelles font partie des insectes qui sont les plus aimés hein, de tous. Hein. On les surnomme les bêtes à bon Dieu. Hein. Et pour le jardinier, ce sont vraiment d'inestimables auxiliaires. Donc il nous faut à tout prix les attirer dans notre jardin car avant de nous débarrasser de tous les pucerons. Donc c'est vraiment un insecte très utile. Mais pour qu'elles viennent au jardin et restent dans notre jardin, il faut déjà qu'elles trouvent de leur nourriture. Donc il faut qu'elles trouvent des pucerons. Donc c'est un peu contradictoire, il faut qu'elles trouvent des pucerons. Donc en début de printemps, il y a des plantes qui attirent les pucerons, par exemple les fèves. Mais moi, à mon sens, hein, à mon avis, il y a une plante qui est très intéressante, c'est l'absinthe. Les extrémités de l'absinthe, quand l'absinthe va pousser, quand elle va atteindre à peu près 60 cm de haut, les extrémités vont se couvrir de pucerons, parce que les pucerons vont venir sucer la sève de l'absinthe, ils adorent ça. Mais alors rapidement, les coccinelles arrivent, elle se régale, alors elle festoie carrément sur ses pucerons, elles se reproduisent énormément, et le pied d'absinthe est carrément recouvert complètement, mais il y a rempli de larves de coccinelles. Donc c'est vrai, c'est très intéressant pour le jardin, parce que ces larves vont se transformer en coccinelles, et puis de ce fait, tous les jardiniers, ils auront de nombreux auxiliaires dans leur jardin pour pallier à toute invasion de pucerons. Voilà. Donc ça, c'est l'absinthe, c'est une plante qu'on devrait tous avoir dans le jardin.
Mais ça rend fou, hein, l'absinthe.
Ouais, si on en fait de l'alcool.
Tout à fait.
Quand elle reste en plante, non.
Toulouse-Lautrec en est devenu fou, hein, consommer.
Mais non, on va aller sans plante.
Alors, Bertrand, si on parle arbre aujourd'hui, c'est pour parler de celui qu'on appelait autrefois l'arbre de la sagesse, en l'occurrence le bouleau. Et en effet, le printemps est la saison de la récolte de la sève de bouleau, un nectar naturel qui a bien des vertus pour nous aider à sortir de l'hiver.
Alors oui, alors le bouleau faisait partie des arbres sacrés. Hein. Son écorce blanche évoque la purification. Et comme elle se renouvelle souvent, c'est un symbole de renouveau et de régénération. Et bien la sève de bouleau, c'est très bon aussi pour nous. Donc la sève de bouleau, si on la récolte sur l'arbre et qu'on en boit un verre par jour, ça va aussi régénérer notre organisme. Donc c'est très très bon pour la santé. Donc la sève de bouleau, alors c'est un peu tard maintenant parce qu'on arrive quand même fin mars, la sève de bouleau va monter au début mars et ça va durer tout le mois de mars. Donc pour la récolter, moi j'ai une façon simple de la récolter, je prends une bouteille d'eau minérale, je mets le bouchon dessus, je perce un trou au diamètre 6, c'est le diamètre d'une paille que les enfants utilisent pour boire un jus de fruits, et un tout petit trou à côté pour évacuer l'air. Je pose la bouteille au pied du bouleau, je mets deux briques pour la coincer. 10 cm au-dessus, je perce un trou de 6 dans l'arbre, sur à peu près 3 cm de profondeur. J'introduis la paille dans le trou du bouchon de la bouteille et j'introduis l'autre extrémité dans le bouleau. Et bien en fonction du bouleau, ça va tomber goutte à goutte, mais en une nuit, on peut quasiment avoir une bouteille de rempli. C'est très très bon à boire, c'est de l'eau légèrement sucrée, avec tout des minéraux et tout ce qui est bon pour la santé. Il faut pas en boire un litre par jour, hein. Simplement un verre par jour, ça suffit. Hein. Voilà, pas plus. Voilà. Donc, franchement, je vous conseille, si vous l'avez jamais fait, de le faire. Ça coûte pas cher, ça coûte rien du tout.
quand, parfois au bout de 2-3 jours, l'eau, le goutte à goutte s'arrête. Donc dans ce cas-là, on prend un bout de branche, du diamètre du trou un peu plus grand, et on l'enfonce dans le trou, ou alors une cheville cannelée qu'on enfonce pour bien fermer le trou, pour pas que la sève s'évacue en permanence. Par la suite. Et on repère ça trois côtés, ça recommence, et ça, ça dure un mois.
Et alors, en effet, comme on le disait, c'est excellent pour la santé, ça nettoie, ça purifie, ça désintoxique, etc., etc. Et bon, bah, tout le monde va nous dire, Bertrand, tout le monde n'a pas forcément un jardin avec un bouleau dedans. Alors, il faut savoir que la sève de bouleau, on peut la trouver aussi dans tous les magasins bio. Et elle vient d'arriver, d'ailleurs. Hein.
Oui, je pense, oui. Oui.
Alors Bertrand, puisque c'est le printemps, on a envie de refaire des randonnées pédestres, et je m'aperçois que beaucoup n'ont pas encore retiré les têtes fanées de leurs hortensias, ce qui n'est pas très joli. Alors justement, l'hortensia, Bertrand, comment en prendre soin à cette époque de l'année?
Alors c'est vrai que certains vont tailler les hortensias à l'automne, après la floraison, mais il y a beaucoup de jardiniers qui laissent les têtes fanées, parce qu'elles vont protéger les bourgeons qui vont naître du gel. Donc, il vaut mieux les laisser quand même. Hein. Bon, maintenant, c'est bien sûr le moment de les supprimer. Donc on va tailler toutes les têtes fanées, mais on va tailler que le fané. On va pas descendre trop bas sur la tige, parce que vous allez voir que sous la tête fanée, il y a deux premiers bourgeons qui pointent, et ces deux premiers bourgeons, ce sont les futures fleurs. Donc on n'y touche pas. Hein. On risque de faire avorter la prochaine floraison si on vient y toucher. Donc on taille que les fleurs fanées. Toutefois, on peut quand même supprimer toutes les branches qui sont un peu grêles au pied de l'hortensia, qui sont un peu fragiles, les branches mortes, et puis les quelques vieilles branches. Donc il n'y a pas trop de choses à faire autour de l'hortensia en ce moment.
D'accord.
Supprimer
toutes ces têtes fanées. Et quelqu'un m'a demandé si on pouvait encore en replanter dans son jardin à cette époque de l'année.
Ah ben bien sûr, hein. On n'est pas encore fin mars, donc tout ce qui est arbuste, hein, que ce soit hortensia ou pas, à racines nues ou en pot, jusqu'en fin mars, on peut le planter. Après la fin mars, on va pouvoir planter tout ce qui est arbuste en motte ou en pot. Dans le courant de l'année, on peut toujours planter, à part évidemment les époques de très grande sécheresse. Hein. À l'époque estivale, il y a parfois des semaines où on ne va pas planter, mais on peut vraiment planter. Par contre, il faudra vraiment bien arroser copieusement tout le long de l'année, parce que c'est un peu tard quand même, mais il n'y a pas de problème.
Alors Bertrand, je crois que c'est le moment de planter les épinards, et vous nous direz comment réussir la plantation pour avoir une bonne récolte la semaine prochaine. Aujourd'hui, je vous pose simplement la question, quelle est la différence entre l'épinard et la tétragone? Car je vous avoue que c'est un terme que je ne connaissais pas, la tétragone.
Alors, la tétragone, c'est pas un épinard. Hein. Donc, on l'appelle quand même épinard de Nouvelle-Zélande. Donc, c'est un épinard d'été. C'est une plante qui est facile à cultiver, mais ça n'a rien à voir avec les épinards. Sauf qu'on va l'accueillir, on va cueillir les feuilles au fur et à mesure de la consommation. Voilà, on va la manger crue en salade ou cuite comme nos épinards. C'est voilà pourquoi ça ressemble un peu aux épinards, hein, la feuille. Plus on en cueille, plus ça repousse. Car la tétragone, c'est vraiment un super légume, hein. C'est riche en vitamine C et autres, hein. Donc c'est intéressant de l'avoir. Nous, quand on en met en serre, c'est une plante qui court un peu, qui court dans la serre, et puis quand elle va fleurir, eh ben, les graines se ressèment, ça repousse l'année suivante dans la serre. Donc c'est une plante intéressante, parce qu'on n'a pas besoin, une fois qu'on en a mis une fois, souvent on en a toujours.
Et donc
c'est une plante qui... Oui, allez-y.
Ça se mange cru, vous dites?
Ça se mange cru ou cuit.
D'accord.
Comme les épinards.
D'accord.
C'est pour ça qu'on l'appelle épinard de Nouvelle-Zélande. C'est une plante peut-être un peu plus facile que l'épinard. Elle prendra peut-être moins d'azote. Parce que les épinards prennent beaucoup d'azote. Ils sont très riches en azote. Donc c'est parfois déconseillé aux bébés, les épinards. Voilà.
Donc la semaine prochaine, eh bien, vous nous direz comment réussir une plantation et puis comment faire pour avoir une bonne récolte. Alors Bertrand, quelle petite astuce nous sortez-vous de votre sac cette semaine?
J'ai eu une question il n'y a pas longtemps, parce que un adhérent m'avait dit, j'ai un arbuste qui a la chlorose qu'il y avait l'année dernière, il y avait la chlorose par manque de fer, donc toutes les feuilles ont jauni, tout ça. Et c'est vrai que quand on a une chlorose par manque de fer, les feuilles vont jaunir. Donc on peut mettre, il m'a demandé si vous pouvez mettre des morceaux de ferraille rouillés au pied des arbustes chlorosés. Ben oui, on peut le faire. On met des morceaux de ferraille rouillés, même on les enfonce dans le sol, on en met en surface. Et parfois, ça marche. Bon, mais il faut quand même savoir que c'est pas si évident que ça, parce que un sol peut être très très riche en fer et la plante souffrir de manque de fer. Ça peut arriver également. Parce que Le fer est difficilement assimilable lorsque le sol est très calcaire. Donc déjà, il y a du fer dans le sol est calcaire, la plante n'arrive pas à assimiler le fer. Donc à ce moment-là, il faut faire une pulvérisation ferrique sur les feuilles, ou alors on change l'arbre d'endroit. Et il y a aussi une autre chose, c'est que le sol est très riche en manganèse, eh ben on peut avoir tout le fer qu'on veut, ça marchera pas. Je sais qu'il y a une île quelque part, c'est une île volcanique où le sol c'est vraiment quasiment que du fer, très 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 riche en fer, mais très riche en manganèse également. Et donc ils cultivent les bananiers, ils sont obligés de pulvériser parce qu'il y a les chloroses par manque de fer, ils sont obligés de pulvériser un produit à base ferrique et pour justement pallier à ça.
D'où l'intérêt quelquefois de faire analyser sa terre.
Tout à fait. Voilà.
Alors Bertrand, au sein de votre association des paysages des jardins des hommes, les cours de jardinage pour enfants vont bientôt reprendre.
Eh oui, c'est début avril. Alors Julien Perret, notre vice-président, va reprendre les cours de jardinage avec les enfants tous les samedis matins. Donc il y a de nombreux enfants qui vont venir s'activer au jardin de l'ermite, préparer la terre et puis faire leur premier semis dans peu de temps. Voilà.
Alors pour s'inscrire, bien sûr, pour inscrire les enfants, il faut bien sûr adhérer à l'association, et on l'a déjà expliqué, c'est pour une question d'assurance, adhérer à l'association des paysages des jardins et des hommes, et puis vous avez évidemment tout sur votre blog, à la fois les explications et le bulletin d'inscription, voilà, le bulletin d'adhésion. Bertrand, merci, très bonne semaine à vous, le jardin vous appelle je suppose.
Ah oui, il y a beaucoup de choses. Bonne semaine à tout le monde.
Eh bien, bon courage et bonne semaine. Merci Bertrand.
Merci.
Zora, je me recouche aussitôt. Je prends soin de mon corps. J'écoute les oiseaux. J'observe les abeilles qui butinent la lavande. Je vis au rythme du soleil et de la lande. Je vais mieux. Attends-moi encore.
Sur Radio Plus. Et vous, Jacqueline, comment allez-vous ?
Eh bien, ça va, Martine, je suis là.
Alors, bientôt, les lycéens de la seconde vont devoir choisir leur spécialité. C'est la fin d'un monde né en 1993. Arrive aussi le nouveau bac, avec notamment l'entrée du contrôle continu. On constate que la modernisation du bac est bien engagée. On a l'impression qu'une page se tourne. Alors, Jacqueline, d'abord, je vais vous dire bonjour, hein.
Oui, bonjour Martine et bonjour aux auditeurs.
Alors, l'ancien système d'organisation des études au lycée a été celui d'une génération entière et sa suppression en rendra perplexe plus d'un. Alors, de nombreuses habitudes s'apprêtent à être chamboulées tant du côté des professeurs que celui des élèves. Certains protestent, les parents s'inquiètent. Nous avons été élèves autour de mai 68 et Jacqueline, vous avez été vous-même enseignante. Alors, des réformes, vous en avez connues quelques-unes, Jacqueline. Y en a-t-il une qui vous a marqué davantage ?
Oui, alors écoutez, les parents s'inquiètent, les élèves aussi, ils s'en remettront, hein, je pense, parce que c'est pas la première réforme que l'on va vivre. Si on songe que le baccalauréat est apparu en 1253, Saint-Louis, première université de Paris, et à cette époque-là, le mot bachelier, C'est un jeune homme qui aspirait à devenir chevalier, donc on utilise ce mot pour désigner celui qui aspire à faire des études, et bachelier donne bac, bachot et bachoté. Hein. Et la femme que je suis aura plaisir à dire que la première femme qui décroche le baccalauréat, c'est en 1861, elle s'appelle Julie Victoire, elle avait un beau nom, hein, et les garçons ont dit d'elle, elle est tout juste bonne à bachoter, c'est-à-dire à ramer sur le bac qui traverse la rivière. Bon voilà, donc pour dire qu'après après, évidemment, il y a eu des réformes avec Napoléon, puis toutes ces années-là. Moi, en tant qu'élève, hein, avant d'être prof, j'étais élève, je connais des baccalauréats qui s'appellent mathématiques élémentaires, philosophie, sciences expérimentales, mathématiques et techniques. Et il n'y a pas encore de baccalauréat d'enseignement technologique ni professionnel, bien entendu, puisque ce sont à l'époque surtout des brevets supérieurs et des BTS et des CAP que l'on passe. Voilà, alors en 73, il y a une réforme qui crée les baccalauréats, alors nos bacs à nous, sans doute Martine, je ne sais pas quel bac vous avez passé.
Un bac philo.
Un bac philo, voilà. Donc en 73, ces jolis noms disparaissent pour être remplacés par des lettres. Donc moi, quand j'arrive comme professeur, les baccalauréats sont devenus ABCDE pour l'enseignement général, FGHI pour l'enseignement technologique, et quand on dit à un élève quel bac tu as passé, il va dire B ou D ou F, sans trop voir qu'en dessous de ça, il y a quand même des termes hein, qui désignent le baccalauréat qu'on a passé. Moi, je voulais, comme j'avais fait des études de sciences économiques, j'espérais enseigner en bac B, qui était le baccalauréat économique et social, et il n'y avait pas de poste à ce moment-là, et donc j'atterris en G, en bac G, le fameux bac dont on disait que c'était le bac de poubelle. Hein, voilà, mais qui n'en était pas moins des baccalauréats intéressants, parce que on était dans les classes encore du baby-boom, mais des changements de société où il fallait avoir des diplômes pour pouvoir s'insérer dans la société. Mmh. Et moi, j'avais coutume de dire, les poubelles, d'accord, mais si les éboueurs ne passent pas, la société marche de travers. Et donc, c'était quand même des bons bacs, en ce temps-là, qui donnaient du travail. Alors moi, cette réforme, bon, bah, je ne la connais pas, j'arrive, elle est déjà faite, j'enseigne donc en baccalauréat G. Et des années, alors G, c'était G1, G2, G3, baccalauréat comptable, vente ou secrétariat. Et quelques années après, au début des années 90, on va à nouveau balayer tout ça, parce que chaque ministre a à cœur de faire sa réforme, hein, bien entendu. Et donc on va balayer tout ça pour remplacer par un système qui disparaît aujourd'hui, hein, qu'on a donc peu changé depuis une bonne vingtaine d'années, baccalauréat L, qui remplace A, hein, donc littérature, baccalauréat S, les scientifiques, et puis les baccalauréats technologiques qui deviennent des baccalauréats STT et STI. Enfin, j'en oublie sans doute, hein, parce que en fait, on croit toujours qu'il y a deux ou trois spécialités. Je peux vous dire qu'il y a 20 BTS issus de tous ces baccalauréats, par exemple. Donc, pourquoi ça m'a marqué, cette réforme-là? Eh bien, tout simplement parce que je deviens formatrice académique et je vais me balader pendant à peu près 2 ans dans toute l'académie pour aller apporter aux professeurs ce qu'on appelle la valise pédagogique, parce qu'on ne fait pas comme ça une réforme en disant, bon, ben voilà, cette année, le bac, c'est fini, l'année prochaine, c'est un nouveau bac, des nouveaux programmes. Non, ça se prépare d'abord au ministère, et puis pour chaque spécialité de bac, il y a des professeurs formateurs qui conçoivent des nouveaux exercices, des épreuves de baccalauréat qu'on appelle épreuve de baccalauréat zéro, bien entendu, qui ne tomberont pas au baccalauréat, et on entraîne tous les professeurs à pouvoir être en mesure, 2 ou 3 ans après, de faire passer le baccalauréat. Voilà, donc moi je me souviens surtout de cette époque, hein, où j'étais jeune, où je rencontrais beaucoup de collègues, où on formait à ces nouveaux bacs, et je pense que maintenant, bon, je suis en retraite, mais ça se passe toujours comme ça. Les élèves qui vont rentrer en seconde cette année vont subir cette nouvelle réforme, mais les professeurs, à mon avis, sont prêts là quand même depuis un an ou deux.
Ben, il faut espérer.
Le nouveau ministre est arrivé, d'ailleurs.
Alors justement, Jacqueline, l'émission s'appelle L'ère du temps, donc nous n'allons pas sombrer dans la nostalgie, mais quand même, cette réforme du bac, ce n'est pas rien. Fini donc les grandes filières, fini le bachotage, peut-être fini le stress aussi, mais les élèves garderont-ils les mêmes souvenirs des résultats? Car c'était quand même quelque chose, hein, puisque bon, maintenant, avec le nouveau bac, il va y avoir beaucoup de contrôle continu, mais bon, avant, c'était l'examen, on bachotait,
Oui, enfin le contrôle continu, seulement 30% hein, de la note.
Hein, oui,
il y aura
tout
quand
à fait.
Même 4 épreuves importantes qui vont représenter 60% de la note, qui vont peut-être se passer pour le français en première, et j'ai vu que d'autres épreuves allaient se passer au retour des vacances de printemps, donc ça va peut-être écourter un peu l'année, et si les programmes n'ont pas été réduits, on a toujours du mal à finir les programmes pour le mois de juin, donc là il faudra bien les finir pour le retour des vacances de printemps. Donc peut-être du stress quand même hein, pour la préparation de ces épreuves. Et puis bon, nous c'est vrai que je me souviens qu'on avait un oral obligatoire, et le soir de l'oral, les professeurs proclamaient les résultats devant les familles, les élèves. Après on est passé au système des listes qu'on accrochait, et on allait voir sur la liste si on avait son nom. Mais moi je crois qu'il y a toujours du stress, quel que soit le système, quelle que soit la réforme, parce que on est jeune, on a 17 ans, 18 ans, on sait que de toute façon, il faut ce baccalauréat si on veut poursuivre des études, c'est quand même le premier grade universitaire, et c'est un âge où on est inquiet pour son avenir, pour les études qu'on va faire, la vie qu'on va avoir, et je suis pas sûre que les élèves soient moins stressés. Moi, j'ai été quand même enseignante pendant pas loin de 40 ans, et j'ai toujours eu devant moi des jeunes qui, même si ils donnaient une impression. De nonchalance, pas de travail, mais à l'approche des épreuves, il y avait beaucoup de stress, et au moment des résultats aussi.
Alors, Jacqueline Panier, vous êtes présidente de l'Amicale des anciens du lycée Carnot de Bruay-la-Buissière, et en tant que telle, vous avez remis dernièrement des cadeaux aux bacheliers méritants de 2018.
Oui. Oui, alors en fait, c'est pareil, les plus anciens qui nous écoutent aujourd'hui se souviennent certainement que dans les lycées autrefois, il y avait la remise des prix. Hein, on allait souvent dans une salle des fêtes ou salle du cinéma, ou dans le lycée s'il y avait la place, et puis on nous remettait le prix d'excellence, le prix d'honneur, etc. Avec de la musique, la chorale qui chantait, les parents qui étaient là, donc c'était vraiment, voilà. Et puis ça, on l'a fait disparaître parce qu'on a considéré que c'était un peu trop élitiste. À une époque, après 68, on a gommé beaucoup de choses de cette époque révolue. Et nous, à l'Amicale, puisqu'on s'occupe de l'Amicale des anciens élèves du lycée Carnot, on a eu l'idée depuis une dizaine d'années de réintroduire une mini-cérémonie de remise des prix lors de notre Assemblée Générale. Donc on invite les élèves, les bacheliers de l'année précédente, donc cette année c'était les bacheliers 2018, qui ont eu une mention très bien, et ils viennent ou ils ne viennent pas, on les invite. Là, cette année, ils étaient une vingtaine, et on leur remet des livres et des places de cinéma.
Et alors, justement, quel accueil avez-vous eu? Est-ce que vous avez l'impression que les mentalités changent?
Pas du tout. Moi, c'est ce qui est formidable quand on est enseignant. On a devant soi des jeunes et eux sont toujours les mêmes. J'ai toujours trouvé qu'ils étaient pareils. Hein. On retrouve des jeunes gens qui ont 18 ans, 19 ans, qui font leur première année d'études, qui sont gentils, qui sont contents de se retrouver, qui retrouvent quelques professeurs, qui ont du plaisir à revoir les murs dans lesquels ils ont quand même passé quelques années de leur vie. Et justement, j'ai une jeune fille là qui a eu un prix, qui m'écrit: Madame, je vous remercie pour l'attention que vous portez à nous, anciens lycéens. J'apprécie beaucoup le livre qui m'a été offert. L'assemblée était très sympathique. À bientôt, Clémentine. Donc, elle aurait pu trouver qu'on était une assemblée de vieux croutons. Ben non, pas du tout. Elle trouve l'assemblée très sympathique. Alors, bon, c'est sûr qu'une amicale d'anciens élèves, c'est un peu suranné aujourd'hui. Mais c'est ce que je leur ai dit en faisant le discours. On vous tient cette amicale au chaud. Peut-être qu'un jour, quand vous serez là, des réseaux sociaux, vous aurez plaisir à revenir au sein de cette amicale qu'on aura gardée pour vous depuis quand même 81 ans maintenant. Hein.
Et alors, justement, avez-vous l'impression que les jeunes pourraient encore s'investir, par exemple, dans une amicale d'anciens?
Oui, mais là, il faudrait derrière eux peut-être une équipe comme vous, Martine, trouver quelques hommes et femmes de bonne volonté.
Je parle des jeunes.
les amener à ça. Là, on en parlait justement au banquet qui a suivi l'amicale. On disait pourquoi ne pas les inviter à nous rejoindre au banquet. Je ne sais pas. Il faut peut-être réfléchir autour de ça, mais moi, je pense qu'il suffirait d'un noyau. Et puis, vous savez, on rentre dans une ère où il va falloir veiller à sauver notre planète. Et les jeunes pour sauver la planète. Ils manifestent dans la rue tous, hein, on les voit tous les vendredis, il a manifesté. Il y a une chose qu'ils pourraient faire pour sauver la planète, c'est lâcher leur téléphone portable. Parce que les fameux téléphones, iPad, iPhone, etc., sont des consommateurs d'énergie comme c'est pas possible. Ils ne se rendent pas compte que ça, c'est presque peut-être un quart ou je ne sais pas de la pollution de la planète.
Tout
et
à
de,
fait.
De la disparition des ressources rares. Donc, quand ils auront compris que peut-être il faut passer un peu moins de temps sur ces engins-là, auront-ils du plaisir à se retrouver dans des amicales où on ne fait que boire, manger, chanter, hein, voilà.
Alors, justement, vous parliez de tablettes. Bon, maintenant, on parle beaucoup du confort de l'élève. D'ailleurs, par exemple, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, ne serait pas contre le fait de faire commencer les lycéens à 9h au lieu de 8, et ceci afin de contrecarrer la dette de sommeil entraînée par ce lever tôt, on va dire. Mais là, il n'en parle pas du portable, du clavier ou de la tablette. Dans tout cela, il n'en parle pas parce que, bon, finalement, les étudiants, et j'ai eu moi-même des étudiants, passent beaucoup de temps sur leur clavier, même leur jeu le soir, et forcément, ils manquent de sommeil.
C'est vrai, mais moi, j'avoue que 20 ou 30 ans en arrière, il n'y avait pas ces appareils avec lesquels les jeunes allaient se coucher, la limite. On a toujours fait commencer dans les lycées et les collèges les cours à 8 heures du matin. Il faut voir que certains prennent des transports en commun. Ils sont obligés de se lever vers les 5h30, 6h du matin parce que le système de ramassage, maintenant on fait le bus à haut niveau de service, ça ira peut-être mieux, je ne sais pas, mais arrive au lycée. Le bus fait deux navettes, hein. Donc les premiers arrivent vers 7h15. Le lycée n'est même pas ouvert, ils sont obligés d'attendre dehors. Et puis le soir, s'ils ont cours jusque 18h, le temps d'avoir un bus et de rentrer chez eux, ils arrivent à la maison à 19h. Ça leur fait des journées très longues. Et s'il y a encore des devoirs à faire après, eh bien, ils étaient fatigués. Moi, je militais, je me souviens qu'au conseil d'administration du lycée, je limitais déjà pour qu'on fasse les cours, qu'on fasse commencer la journée à 9h du matin. Mais bon, on me disait que c'était pas possible parce que après les bus allaient faire d'autres transports. Bon, c'était un petit peu compliqué. Et c'est pas toujours l'élève qui arrive le plus près du lycée, d'ailleurs, qui est à l'heure, hein. C'est souvent celui-là qui est en retard. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? 8h, c'est tôt. Et si on regarde une semaine lycéenne, surtout dans les sections technologiques, hein, les baccalauréats industriels ou tertiaires, eh bien, ils ont des semaines qui sont très lourdes et que certains adultes, peut-être, auraient du mal à supporter. Et la tablette y est pour quelque chose, c'est sûr, on diminue la durée de sommeil. Mais il y a beaucoup de choses à revoir quand même dans le rythme scolaire.
Alors Jacqueline, je vous propose d'en reparler avec nous. Un de ces quatre, on va dire, pour un peu une expression de chez nous, parce que il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette réforme du bac, sur justement le sommet de l'élève, et puis aussi sur les oubliés de la République, comme les appelle Salomé Berliou, c'est-à-dire ces jeunes qui sont éloignés des centres urbains.
Bien sûr.
On en reparle.
Allez.
Je vous dis à très très bientôt donc sur cette antenne. Merci Jacqueline.
Au revoir Martine.
Au revoir.
Au revoir à tous et à toutes.
Change, les chansons aussi, des découvertes tout de suite si vous avez envie de rester avec moi pour Kaléidoscope, musique et chansons au programme comme chaque semaine. Sinon, on se retrouve pour une autre édition de L'Air du Temps lundi prochain.